On n'est pas
allé de
la dernière fois. On ferait mieux de refaire un petit tour à l'Alma, non ?
Du côté de l'Alma.
Du côté de l'Alma.
Du côté de l'Alma.
En plus, c'est vrai que c'était un beau coin.
Du côté de l'Alma.
C'est la place et le Mont Arnaud, et ça, c'est la cour.
Une émission de quartier.
Tu veux aller par là ?
Quotidienne et éphémère.
Et il y avait la fête, il y avait même des cracheurs de feu.
Éphémère.
On peut se faire un petit coup de servant et bouteilleur.
Et ni sur les habitants.
Donc on va.
Une ouverture exceptionnelle du 12 rue Trécloître, du 6 au 11 octobre, sur Trackloot Radio 90.8.
Trackloot Radio 90.8.
Et bienvenue du côté de l'Alma, notre émission quotidienne, même plus que quotidienne, parce qu'on en fait plusieurs fois par jour, dans le cadre du festival Ouverture exceptionnelle qui a lieu du coup du 6 au 11 octobre. Et cet après-midi, nous commençons avec l'histoire. L'histoire du quartier, c'est un des grands points qu'on avait envie d'évoquer avec vous tout au long de la semaine. Et pour l'ouvrir, nous avons ici Claude et Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Claude et Bernard sont nos invités. Et à mes côtés, il y a Marie qui co-animera l'émission avec moi.
Bonjour.
Alors Claude et Bernard, il se trouve qu'on les a rencontrés un beau matin, un mardi matin, au cabinet de curiosité. C'est le lieu qu'on nous avait conseillé pour aller farfouiller des documents d'histoire un peu compilés. Et il se trouve qu'on s'attendait plutôt à passer des heures à lire de la documentation à travers des textes. Et finalement, on n'a rien lu du tout. On a plutôt écouté. Parce que vous êtes à vous seul des livres d'histoire vivants.
Merci.
Comment êtes-vous arrivé à ce cabinet de curiosité ? Qu'est-ce que ça représente dans le quartier ?
Bah, pour moi, le cabinet de curiosité, c'est un endroit qui est ouvert maintenant depuis un an. Hein. Donc, qui est ouvert tous les mardis, à partir de 10h, tous les mardis matins, et où on croise un peu des gens du quartier, on stocke un peu de la documentation, des vieilles photos, des vieux textes, des vieux livres, enfin des souvenirs de gens. Et puis surtout, on discute avec les gens qui passent, les gens qui nous connaissent au bout d'un certain temps, qui évoquent tous leur vie passée dans le quartier Trécloître. C'est-à-dire vie passée, j'entends, ça peut être hier, ça peut être il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc ça permet d'avoir une espèce de point de vue et d'espace de rencontre. Après, qui est ouvert un peu à tout le monde, il n'y a même pas besoin vraiment d'être du quartier, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ont vécu une petite partie de leur vie dans le quartier, qui se retrouvent là, c'est toujours des échanges très intéressants.
Donc c'est la construction d'une histoire, vivante, quoi,
voilà,
à travers le récit,
les
témoignages,
du quartier,
une histoire populaire par ces personnes qui ont vécu d'une manière ou d'une autre.
Exactement. Alors des fois, ça se croise avec des petits bouts d'histoire réelle. Par exemple, là, on a discuté avec un peu le fleuriste du bout de la rue, il nous a dit quand il avait repris son local, ils ont retrouvé au fond c'est un vieil immeuble quoi, qui est resté, et donc ils ont retrouvé des journaux qui dataient de l'occupation, des choses comme ça. Enfin, donc on se retrouve aussi. Et puis il y a des gens qui vont nous raconter que quand ils avaient 10 ans, il y a une vingtaine d'années, c'était pas du tout pareil, parce qu'à l'époque, il y a encore 30 ans, le quartier n'avait pas la même physionomie. C'était que des bâtiments anciens, des choses comme ça. Enfin, donc c'est toujours très intéressant.
Il y a cette histoire contemporaine qui se tisse au fil des rencontres, mais il y a aussi une histoire qui est plus ancienne, et celle-ci, peut-être qu'elle se cherche davantage du côté des archives. Et Claude, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt votre domaine.
Oui.
Vous les fréquentez.
Oh ben, moi, ça fait 20 ou 30 ans que je vais en archives, en bibliothèque. Et je m'étais intéressé à d'autres sujets, parce que moi, je suis ouvrier, donc je me suis intéressé à l'histoire syndicale, l'histoire politique, sociale.
Qui est très fort dans le quartier, d'ailleurs, on y reviendra au cours de la semaine.
Et donc, petit à petit, ça m'a amené à m'intéresser à l'histoire des quartiers de la rue Chenoise, rue du Pont-Saint-Gem, et puis Trécloître aussi, puisque c'est lié à l'histoire de Grenoble aussi.
Alors ça tombe bien parce que le nom de notre radio, c'est un nom qui est lié à l'histoire, parce qu'il a bien fallu qu'on trouve un nom de radio. On a un peu essayé d'essorer tous les jeux de mots possibles et imaginables. Et finalement, on s'est arrêté à Trackloot Radio. D'une part parce que c'est pas si simple à prononcer et qu'on trouvait ça assez drôle de devoir le prononcer beaucoup de fois. Trackloutra. Et en même temps, parce que c'est inscrit dans l'histoire du quartier. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Alors voilà, Trackloutra, enfin, il y a plusieurs graphies, hein. Il y a un nombre incroyable de façons de l'écrire.
Mais donc, c'est ça. Y a soit le, enfin, ce qui est communément accepté, c'est soit le tracloutra ou soit le trascloustra.
Tracloustra ou trascloustra, bon, ça veut dire en latin derrière le cloître ou après le cloître. Voilà. C'était les termes qui étaient plus ou moins utilisés à l'époque, par exemple, dans le premier registre de baptême qui est conservé. Hein. On parle de rétroclostra.
Donc, ce qui signifie que finalement, ce quartier-là d'aujourd'hui a été, s'est construit, s'est développé derrière le cloître, mais ce qui veut dire aussi derrière un rempart, une enceinte, c'est ça ?
Oui.
Donc en dehors de la ville.
Oui, parce que comme la cathédrale Notre-Dame est à un côté qui est bâti carrément sur l'enceinte romaine, vous voyez, donc c'était hors, derrière le cloître, mais hors de l'enceinte aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que... Et puis, il y avait la porte herculéenne, hein, qui était juste en face. Donc, quand on passait cette porte qui est matérialisée sur la voie de tram, eh ben, on était hors de Grenoble, on était hors de l'enceinte. Donc, si on tournait à droite, on allait derrière le cloître.
La porte herculéenne, donc c'est une porte romaine qui était... Et donc, à Grenoble, il y avait deux grandes portes, une qui est donc au niveau de Notre-Dame, qui est la porte herculéenne, et puis l'autre qui est la porte maximienne, qui, elle, se trouve, qui se trouverait maintenant, disons, au niveau de la place Grenette, sachant que Grenoble, donc, c'était tout petit. C'était Notre-Dame-Grenette, et tout ce qui est en dehors, ce n'était plus Grenoble, quoi, à l'époque.
Et donc, ces quartiers-là qui naissaient en dehors des villes,
oui.
Pourquoi est-ce que... Qui vivait là, pourquoi
dans les villes, quand il y a les villes fortifiées, il y a des portes. Donc les gens, des fois, ils étaient obligés d'attendre. Hein, donc, ce qui fait que, on ne sait pas à quelle époque exactement, mais bon, petit à petit, il y a des maisons qui se sont construites avant de pouvoir entrer dans la ville. Et bon, c'est comme ça que... Et puis, bon, il y avait des problèmes peut-être aussi de construction à l'intérieur de la ville. Ça devait être plus facile de construire à l'extérieur, vous voyez. Et puis, ça pire, comme ça. Mais là, le quartier est très cloître. Il existait déjà en 1330. Donc, ça veut dire qu'il a été construit... Il a démarré bien avant.
Donc, finalement, il a été habité par des personnes qui arrivaient.
Oui. Ou des personnes qui étaient de Grenoble. Mais bon, qui avait du mal à se loger peut-être dans Grenoble, vous voyez, parce que c'était...
Et pour finir, est-ce que ce quartier, il a toujours été un peu comme ça, en dehors de la ville, ou est-ce qu'à un moment donné, l'enceinte ou les remparts évoluant, il a fini par être lui aussi...
Mais ça, c'est bien plus tard, c'est-à-dire qu'on peut voir, ce serait plutôt même vers 19e, des choses comme ça, et autrement, il a toujours été un petit peu en dehors.
Il a été englobé déjà avec l'enceinte Lesdiguières. Puisque la première porte trécloître qui a été bâtie en 1340, dans l'extension de l'enceinte romaine qui allait de la cathédrale à l'Isère à la tour de Lille, pour englober déjà à l'époque le faubourg de Lille, et bien cette première porte, elle a été reportée au bout de la rue trécloître en 1590 ou je me rappelle, 11, oui, quand Lesdiguières a construit l'enceinte. Une enceinte agrandie à l'extérieur de l'enceinte romaine.
Et dans ce faubourg-là particulier, et ça j'en viens à la deuxième un peu signification de tracloutra, donc trois cloîtres, c'était aussi le lieu peut-être des populations un peu plus indésirables, entre guillemets. Je pense notamment à la présence protestante qui était quand même marquée.
Oui. Cette porte. Il y a des documents qui datent des années 1540 où il y a des gens qui disent que la nuit, il y avait des gens qui ne pouvaient pas rentrer dans Grenoble. Les portes se fermaient. Donc, ils s'agglutinaient, ils restaient. Puis, à cette époque, c'était une époque de grande misère, avec les guerres d'Italie. Ça avait foutu complètement l'économie en l'air. Il y a des gens qui se retrouvaient... Des gens qui se retrouvaient, à mendier, oui. Et donc, ils venaient s'agglutiner pour obtenir un secours à Grenoble, vous voyez.
C'était donc, plutôt une population populaire, en tout cas, dans ce faubourg, dans les faubourgs des villes.
Oui. Non, mais il y avait une... Ça, c'est lié à la religion. Dans les comptes consulaires, vous verriez les sommes qui étaient dépensées pour fabriquer du pain, pour donner l'aumône. Ils appelaient ça l'aumône de Dieu. Oui, il devait aider les gens qui n'avaient plus à manger, oui, etc., etc. Alors donc, voilà, des gens qui venaient d'à côté, de l'extérieur, ou même qui venaient même de plus loin. Et ça bougeait beaucoup à l'époque, il ne faut pas croire. Hein. Oui. Si, il y a des noms... du Languedoc, il y a des noms de la Bourgogne, même du Pays Basque, même. Il y avait des Basques qui étaient établis avec le travail du cuir.
Souvent, ouais. C'était lié, en fait, j'ai l'impression, à des professions, c'est-à-dire certaines...
Du commerce, oui.
Les gens, donc ils s'installaient sur place, et puis ils faisaient souche, quoi. Mais il y a eu beaucoup de déplacements comme ça. Enfin, là, c'est bien plus tard, mais les faïences de Trécloître, les choses comme ça, c'est des gens qui venaient tous du sud, de là où on faisait déjà de la faïence, et qui sont installés sur Grenoble, oui. Et qui ont commencé à en faire sur place. Quoi.
Avec des artisanats particuliers. Oui. On reparlera tout à l'heure de tous ces nombreux métiers là qui ont coexisté dans le quartier, puis au bord de la rivière, le Verderie. Mais pour terminer, peut-être sur la manière dont... la religion et particulièrement l'Église catholique et le protestantisme a marqué le quartier. Est-ce qu'on ne peut pas en dire quelque chose ?
Oh ben si, mais ça date dans les années, ça commence dans les années 1540. Par exemple, c'est en 1500, je ne me souviens plus combien. Oui, en 1543-44, furent élus consuls Crépin Colliard et Bernardin Curial. Qui se déclareront pour la réforme ou la nouvelle opinion en 1561. Vous voyez ?
Alors ça veut dire que du coup, il y a des personnes qui se revendiquent protestantes dans ce quartier.
Mais déjà, des années, ça a été progressif. Le Dauphiné a donné plusieurs ministres protestants, vous voyez, dans ces années-là, dans les années 1550. Il y avait déjà des Grenoblois qui se réfugiaient à Genève. À Lausanne, dans ces années-là. Parce que sous François Ier, des fois c'était favorable, des fois c'était hostile, vous voyez. Ça fluctuait.
Alors à quel moment arrive du coup justement ces trois cloîtres-là
On peut dire, voilà, c'est les années, c'est les années 1560. C'est là qu'il y a eu. Les protestants avaient pris Grenoble. Donc pendant deux ou trois ans, ils ont dirigé Grenoble. Et c'est là qu'ils avaient construit un premier temple, qui était dans le centre-ville. Bon, après, qui a été démoli, où il servait de magasin à poudre, après. Les protestants avaient une grande influence. Le célèbre médecin Pierre Arréou, lui, c'était le grand responsable de la santé. Parce que c'était l'époque où il y avait des épidémies de peste, vous voyez, etc. C'est vrai que après, quand la poursuite des guerres de religion les a fait baisser, parce qu'il y avait une politique qui visait à les expulser de Grenoble, vous voyez, et après, on connaît l'histoire, c'est l'édit de guerre qui a forcé le Grenoble catholique à rendre les armes. Et c'est là donc qu'il s'est installé à Grenoble en 1590. Et c'est à partir de là que l'influence protestante a été quand même importante et qu'il y a eu le deuxième temple.
Ok. Et alors la contre-réforme, s'est manifestée ?
Mais ça viendra... elle s'est manifestée tout de suite. Déjà, il faut savoir que quand Lesdiguières a pris Grenoble, il y a eu une forte... Le consulat était resté catholique. Et pour qu'il y ait ne serait-ce qu'un protestant qui rentre au consulat, il a fallu attendre une dizaine d'années. Vous voyez, Lesdiguières, il ne faisait pas tout ce qu'il voulait à Grenoble. Il avait une opposition. Le premier couvent qui a été construit, en plus de ceux qui existaient déjà, les trois ou quatre qui existaient déjà, c'était les Capucins. qui était en rue Servan, face au couvent de Sainte-Cécile. Ça a été le premier construit. Bon, après, alors les protestants, eux, avaient construit leur deuxième temple au bout de la rue du Vieux-Temple.
Oui, qu'on connaît aujourd'hui, voilà. Là où il y a la maison des habitants.
Voilà, où il y a la maison des habitants, le gymnase qui est derrière. Et c'était un terrain un peu... Et petit à petit, ils se sont fait entourer.
Entourés de cloîtres.
Voilà, il y a eu le couvent des femmes des Ursulines, dont on parlera demain au cours de la visite. Hein. Après, il y a eu les Bernardines. Et puis, dans la rue Trécloître, qui a été ouverte en 1602, qui allait jusqu'à l'entrée de la rue Saint-Jacques, c'est là qu'il y a eu le couvent des Bernardines de Sainte-Cécile. Après, il y a eu, à côté du lycée Stendhal, il y a eu la maison des repentis de la Madeleine. Après, il y a eu les Jésuites. Vous voyez, la rue de Beaune a été couverte de couvents ou d'institutions religieuses.
Pour contrer la présence protestante entre autres.
Non, mais c'était l'application du Concile de Trente, où il fallait que la religion catholique se remette au niveau du peuple, parce qu'ils s'étaient séparés. Ouais, enfin, c'est pas pour rien que le protestantisme a vu le jour. Hein. Il y a eu une opposition très importante.
Oui, c'était une réaction, en fait.
Et dans la rue du Vieux-Temple, il y a eu les Minimes, le couvent des Minimes. Et ici même, en rue Trécloître, des années 1660, il y a eu Sainte-Marie d'en bas, qu'on appelait aussi les religieuses célestes. Vous voyez, c'était tout entouré de couvents.
Et donc, tous à l'origine des
et donc certains, voilà. Après, ont dit que trois trécloîtres, c'était trois cloîtres, voilà, ce fait-là.
Et oui, parce que comme il y avait beaucoup de couvents, après, vous voyez, trois cloîtres a pris un peu le dessus.
Mais, eh bien, merci pour avoir éclairé ce nom.
Mais c'était... les trois graphies existent. Quand on regarde les archives, c'est... Sans S, avec un S, trois cloîtres. Chacun écrivait un peu à sa façon.
C'est mélangé.
Merci pour cette petite histoire générale du quartier, notamment sur ce fameux nom. Et c'est vrai que globalement, quand on pense à Grenoble, on pense souvent à l'Isère et au Drac qui ont quand même qui cadrent, en tout cas qui entourent la ville. Mais on pense moins à un cours d'eau qui est moins connu. Qui est une eau vive, un ruisseau, c'est le Verderay.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez, jamais, jamais vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets. Dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts l'eau vive s'envolera. Comme les petits bateaux emportés par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé. Le ruisselet au large s'en est allé.
On a donc eu envie de se représenter la vie de ce quartier alors qu'il était encore traversé par le Verderay. Ses activités économiques et sociales, ses conditions de vie, mais aussi ce qu'on pouvait voir, entendre et ressentir lorsqu'on s'y promenait. Alors on a un certain nombre de descriptions écrites et de représentations visuelles des époques passées qui nous aident à se le représenter, mais c'est beaucoup plus difficile de se faire une représentation olfactive de ces temps révolus. Mais heureusement ou pas pour nous, Nathalie Poiret a fouillé dans les archives pour reconstituer une cartographie des odeurs urbaines du Grenoble d'autrefois. Alors voici un premier extrait de son article « Odeurs impures ».
Dès le XVIIe siècle, Grenoble n'est qu'un défi à l'hygiène. Les étaux des tripiers et des bouchers, les pots des tanneries qui sèchent au soleil, les fumiers des chevaux et des animaux de basse-cour, les ruisseaux fangeux, la forte humidité, l'étroitesse des rues, l'état de déchets entreposés le long des berges de l'Isère ne font qu'augmenter l'insalubrité d'un espace urbain enserré dans ses fortifications. La ville agresse l'odorat de l'étranger. Les fossés de l'enceinte s'emplissent d'une eau croupissante et nauséabonde, surtout en été. Au milieu de la chaussée court un caniveau destiné à l'écoulement des eaux de pluie. Mal entretenu, il forme de distance en distance des cloaques fétides, charriant les eaux usées et les ordures mêlées aux cadavres de petits animaux. Leurs ruisseaux, les remparts servent communément de latrines publiques et deviennent les déversoirs de toutes les immondices. Nourrissant chèvres, chiens, chats, porceaux et oisons, véritables éboueurs.
Cela nous donne donc un avant-goût très réjouissant des odeurs de l'époque. Nathalie Poiret parle également de la répartition spatiale des odeurs. Et on écoute tout de suite un second extrait tout aussi savoureux à ce sujet.
Depuis le XVIe siècle, la législation grenobloise a cherché à hiérarchiser les professions, induisant une nouvelle organisation spatiale, sociale et par la même olfactive. Tandis que les boulangers, épiciers, herbières, aubergistes, tonneliers et orfèvres tiennent leur boutique au cœur de la ville, les faubourgs accueillent les métiers encombrants, bruyants, dangereux. Les teintureries, les blanchisseries, les filatures de chanvre, les faïenceries, les scieries, susceptibles d'incommoder par les odeurs, de polluer les eaux et ainsi de répandre les épidémies. Une profession particulièrement insalubre est celle de chiffonnier, qui ramasse et trie toutes sortes de vieux papiers, de chiffons, d'os, de rognures de peau et de cuir. Toutes ces matières, entassées pêle-mêle dans un entrepôt, facilitent le dégagement d'odeurs intolérables.
Alors, pour la petite anecdote, il se trouve que justement, on a fouillé les archives municipales et il se trouve que, le 12 rue Trécloître, qui habite en ce moment notre studio éphémère, était lui-même, en 1876, un dépôt de chiffons. Donc, cette information nous avait semblé a priori totalement anodine, mais c'était avant de lire cette belle description. Donc, la ville s'organisait par type de profession qu'on jugeait plus ou moins présentable. Et est-ce que vous pourriez maintenant nous raconter un peu plus le type d'activité qu'on pouvait retrouver dans le faubourg Trécloître au bord du Verderay, entre le XVIe et le XIXe siècle?
Il y avait pas mal de petites industries, ce qu'on pourrait appeler des petites industries, enfin des gros artisanats, puisque l'industrie n'existait pas encore à cette époque-là. Donc notamment, il y avait beaucoup de poteries pour traiter les pots, justement, que les bouchers laissaient, et qui donc des tanneries, des choses comme ça, à tous les niveaux de décapage de la peau, et qui traitaient avec l'eau, c'est-à-dire qu'ils lavaient, toutes ces peaux étaient lavées avec l'eau du Verderay, donc je vous laisse imaginer, effectivement, comme c'est dit tout à l'heure. Il y avait aussi pas mal de gens qui traitaient la céramique, les choses comme ça, donc pareil, il y avait beaucoup de de chimie, enfin c'est la chimie de l'époque, quoi, mais des choses très 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 toxiques qui passaient dans l'eau et qui affectaient aussi beaucoup les ouvriers eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens qui brassaient tous ces produits-là, bah, ils vivaient pas très vieux. Hein, c'était pas. Donc c'était une époque, je pense que si nous on était enfin on se retrouvait par une espèce de faille spatio-temporelle avec nous comme maintenant à ces époques-là, on tournerait de l'œil en même pas 2-3 minutes, quoi. Bon.
Et puis on pense quand même quand il y a un cours d'eau à l'énergie hydraulique. Du coup, est-ce que ça a marqué aussi donc le quartier là d'avoir un le faubourg plutôt à l'époque, d'avoir un cours d'eau qui passait au travers, il y avait un moulin, il y avait comment ça s'organisait à ce niveau-là, Claude?
Oui, un des plus anciens, enfin, qu'on trouve dans les. Enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvé, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des recherches, et surtout à l'époque où la ville cherchait à acquérir les droits d'eau sur le Verderay, ça c'était à la moitié du 19e siècle, justement pour devenir propriétaire du Verderay, pour ensuite pouvoir le canaliser. Parce qu'avant, il y avait tout un tas de particuliers qui avaient des droits d'utilisation de ces eaux.
C'était pas une propriété collective, c'est-à-dire que propriétaire terrien qui avait un accès au Verderay.
Et oui, et ça s'est matérialisé par exemple à l'époque de la couverture, où la première partie de la couverture a été faite, de l'Isère à la station de tram, mais la deuxième qui devait suivre a eu des objections de la part des tanneurs, teinturiers, qui étaient au faubourg Trécloître et à la place Birakem, parce qu'eux, ils utilisaient l'eau.
Ils avaient tout intérêt à cette époque, pouvoir le garder.
Ouais. À cette époque, l'électricité n'était pas encore suffisamment développée, donc l'eau, c'était la source. Nécessaire. S'il n'y avait pas d'eau, il fermait boutique.
Bien sûr. Et il y a aussi une grosse industrie hein, à l'époque, il me semble, qui était pas mal quand même autour de Grenoble, celle du chanvre.
Ah, oui.
À quoi ça ressemblait? Qu'est-ce que c'était en fait le chanvre à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, ça a passablement quand même disparu, ou du moins c'est beaucoup moindre.
Oui,
quoi.
Oui. Mais avant, c'était les tissus, les draps. Était en chanvre, il y avait le lin aussi, vous voyez, etc. Et ça a plus ou moins disparu quand il y a eu le développement de l'industrie cotonnière. Le coton a tout remplacé.
Alors, à quoi ressemblait l'artisanat et l'industrie du chanvre?
C'est-à-dire, bon, y avait les champs où on cultivait le chanvre, après, ils le récoltaient. Et c'est là que ça posait problème. On pratiquait ce qu'on appelait le rouissage. C'est-à-dire que pour séparer l'écorce des lanières tendres du centre, on les mettait à macérer, on les mettait dans l'eau. Et comme ça, ils pourrissaient et on arrivait à pouvoir faire la séparation.
Et alors concrètement, ces matières-là étaient mises dans l'eau courante?
Non, c'est-à-dire que les gens construisaient des fosses qu'on appelait des routoirs. C'était de l'eau stagnante. Et on mettait les tiges de chanvre là-dedans. Voyez. Et après, il fallait les ressortir. Et après, une fois séchées, c'était traité artisanalement, industriellement, pour petit à petit arriver à faire une toile. C'était comme le coton, on le transformait, ça servait à fabriquer. On parlait des toiles de chanvre.
On peut imaginer que ces eaux stagnantes faisaient partie aussi de l'environnement olfactivement délicieux.
Ah oui,
voilà, les colorer d'une drôle de manière.
Oui. Bon, Grenoble, au mois d'août, par exemple, dans les années 1860, le guide Johann, qui était un peu le guide Michelin de l'époque, eh ben, il déconseillait de passer par Grenoble.
À cause de l'odeur.
Ou alors il fallait passer vite.
De l'odeur du chanvre pourrissant.
C'était une odeur. Il fallait vraiment être habitué.
Oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de voyageurs, enfin, il y a beaucoup de citations de voyageurs de l'époque qui disent que seuls les gens nés à Grenoble, qui étaient habitués depuis leur petite enfance, pouvaient y demeurer. Oui. Que, autrement, c'est ça, on passait, mais on ne traînait pas dans la ville, quoi. C'est fou.
Je conseillais d'aller tout de suite dans les montagnes.
Oui.
L'air pur. C'est, ça a toujours été là, finalement. Et alors, du coup, aussi, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que donc ce Verderet, qui était à l'époque une rivière, un ruisseau, une largeur aussi, quoi, de 1 mètre, 2 mètres
pour que il n'était pas très large.
2 mètres de large sur 1,50 mètre.
Par contre, il avait, comme c'était un torrent, enfin, puisque le Verderet, en fait, il descend de Tarernol au-dessus des Bains, il traversait, donc, il descendait des Bains, il traversait le Grenoble, un peu au niveau de l'abbaye, tout ça maintenant, ces quartiers-là. Et puis, donc, il passait par Trécloître, Rochenoise pour se jeter dans l'Isère. Et le problème, c'est qu'il y avait aussi des inondations. Parce que comme c'était un torrent de montagne, de temps en temps...
À la fonte des neiges.
Et c'était assez régulier. C'est-à-dire, pareil, il y a des choses où on voit des... Où quasiment chaque année, en fait, il inondait tout. Donc, des plaintes de gens qui se faisaient inonder. Et puis, il y avait aussi ces problèmes, comme c'était des propriétaires privés. Certains curaient pas, c'est-à-dire que il y avait des endroits, ça faisait ça stagnait, ça.
Alors qu'est-ce que ça veut dire curer ?
Bah, la ville, c'est-à-dire qu'on gratte le fond pour laisser passer le courant un peu plus fort, et donc il y avait beaucoup, enfin certains, la ville par exemple, il y a pas mal de textes où on retrouve que la ville imposait aux propriétaires justement de ces berges en question. C'était pas le tout de gagner un peu d'argent avec en faisant tourner des moulins dessus, mais il fallait aussi curer, entretenir la berge pour justement éviter les inondations, éviter les blocages, ce genre de choses.
Alors dans la manière dont ça a vraiment dessiné le quartier. Architecturalement, je veux dire, il y a quand même là encore, sans voir, on ne peut plus le voir à l'œil nu, ce Verderet qui est enterré, hein, il est toujours là, existant, mais on ne le voit plus. Mais alors, comment est-ce qu'on arrive quand même à le voir dans les rues ?
On le voit, le fait que justement, ces parties de rue-là sont sinueuses. Et qu'en fait, elles suivaient à la fois les remparts et le Verderet, c'est-à-dire les anciens remparts aussi, suivaient un peu ça servait un peu de. Dans les vieilles images du château, quoi, l'eau qu'il y a autour. Quoi, ça, et donc, si on voit la rue Trécloître, la rue Chenoise, tout ça, c'est des rues qui ne sont pas droites, contrairement à beaucoup de rues qui vont être à angle droit, des choses. Parce qu'elles suivaient, en fait, elles étaient soumises au Verderet. Il y avait beaucoup de maisons, en fait, qui avaient leur arrière qui donnait sur le Verderet. Et donc, ça servait aussi à. Là, on parlait un peu des industries, mais ça servait aussi de. Enfin, du 15e, 16e, 17e, de acheter tout ce qui était... ça servait de dépôt d'ordures. Et les gens balançaient tout dans le Verderet, on pourrait dire, même...
Le tout à l'égout avant l'heure.
Le tout à l'égout n'existait pas encore, donc à cette époque-là, c'était...
Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que maintenant, bon, on ne peut plus le... à part si on sait où il passait. Si on sait où il passait, par exemple... sur la place Notre-Dame, à l'arrêt de la station de tram, bon, il était à peu près, vous voyez la crêperie qui fait l'angle, et ben la porte d'entrée à côté, et il passait sous le poste électrique qu'il y a à côté du fournil Notre-Dame. Voyez, et il longeait les dernières maisons, les derrière des maisons de la rue Chenoise. Bon, si on ne sait pas ça, on ne peut pas savoir qu'il est là. Oui. Par contre, à l'époque où il a été couvert, à la fin du 19e, début 20e, les gens le voyaient. Parce que il y avait des parties où il y avait des maisons construites dessus, mais dans des cours ou entre les maisons, il était à découvert. Mmh. Vous voyez ? Et depuis le faubourg Trécloître aussi. Hein, vous voyez ? Donc les gens de l'époque, ils le voyaient. Hein, vous voyez ? Maintenant, on ne le voit plus parce que c'est tout recouvert. Ça a été construit par-dessus, vous voyez.
On voit un petit peu, en fait, c'est vers les Ruires, enfin, vers les Chirolles, il y a des petites parties découvertes. Et on le voyait encore il n'y a pas très longtemps, enfin, pas très longtemps, dans les années 50-60, à certains endroits, je crois, vers le parc Paul Mistral, il y avait à l'époque des petites parties qui ont été finir d'être couvertes plus dans les années 70, on pourrait dire. Oui.
Donc, il faut imaginer qu'en gros, dans ces faubourgs-là, il y avait pas mal de petits ponts qui permettaient de passer d'une rive à l'autre.
Oui. Souvent, les maisons, justement, sur la rue Chenoise, il y avait des maisons qui avaient des... Je pense très donc ça devait être pareil. Qui avaient leur propre pont.
Oui, un petit ponceau.
Un petit pont, oui, c'est un ponceau.
Un petit ponceau. C'est mignon.
Il y avait la rue du pont Saint-Gemme.
Qui était donc un pont sur le Verderet.
Où habite Bernard.
Oui.
Ah, merci. Bah oui, ah bah là, tout le monde s'y retrouve, du coup. Là, c'est une bonne indication contemporaine. Oh. Là, au moins. Et alors, de quelle manière aussi ce verre doré pouvait influencer peut-être les activités sociales, au-delà de l'industrie, au-delà du développement économique? En tout cas, il y avait cette idée de pisciculture qu'on a abordée une fois.
Oui.
Et est-ce que ça s'est aussi particulièrement lié à l'existence d'un cours d'eau pas loin?
Je pense que oui, oui.
La pisciculture pour le vendredi.
Ah oui, oui. Mmh. Ah ben oui. Il y avait une, on les appelait ça les pêcheries à l'époque, où on pouvait pêcher. Hein. Et il y en avait une qui était à peu près à la station de tram. Vous voyez
ils faisaient des espèces de zones de pêche du.
Alors ça, c'était, c'était la famille de Morges, donc, parce qu'ils avaient une grosse propriété, là. Et donc, ils avaient un endroit, c'était pour eux. Alors, bon.
Ils détournaient une partie du verre doré, ils faisaient une espèce de. Oui. Comme là, on pourrait aller pêcher dans un.
Oui, ils captaient une partie de l'eau à un moment donné, vous voyez, c'était pas nécessaire que ce soit tout le temps. Mais bon. Quand l'eau était propre, hein, oui. Quand l'eau était... Hein, bon, mais ça, c'était pour répondre à l'alimentation qui, à l'époque, qui suivait les préceptes religieux catholiques. Donc, on jeûnait le vendredi, enfin, mangeait maigre le vendredi, et puis les carèmes, tout ça. Mais ici, à Grenoble, il y avait des vendeurs de poissons. Il y en a même qui vendaient des harengs. Alors, les harengs, ils n'étaient pas...
Ils étaient hors de prix.
Dauphinois, hein. Oui, non, mais ça dépendait. Et puis ici, il y avait un gros abreuvoir. Alors ça, c'est lié au fait qu'à l'époque, les chevaux, les mulets, il y en avait des quantités. Et même les animaux. Ici, en Dauphiné, il y a quand même de l'élevage. Pas des gros élevages, mais des gens à l'extérieur, hein. Et d'ailleurs, les Grenoblois, ils passaient une commande. C'est-à-dire qu'ils mettaient un bétail, vous voyez, jeune, et ils le faisaient grandir, engraisser chez un paysan. D'accord. Et après, ils le récupéraient, en lui donnant, vous voyez, une somme. C'était, ils appelaient ça des commandes. Hein. Vous voyez, les animaux, il y en avait beaucoup. Hein. Et puis pour les travaux des champs, pour hein, tout ça. Et le transport.
Oui, tout ça, à cheval.
Et l'armée. Il y a toujours eu l'armée à Grenoble, qui était, pendant les guerres de religion, il y avait des régiments entiers qui étaient stationnés, vous voyez. Alors, puis après, petit à petit, ils ont construit des casernes, mais l'armée a toujours été présente. Hein, c'était la frontière avec l'Italie, avec la Savoie à l'époque.
Oui, c'est ça. Grenoble est une ville frontière. Enfin, pendant très longtemps.
Moi, ce que là, on parle de Nathalie Poiré parle des odeurs, mais il faudrait certainement parler aussi du bruit. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, mais le bruit des sabots, de tous ces chevaux, de tous ces mulets qui circulaient dans la ville, ça devait faire quelque chose.
Il y avait des roues ferrées aussi. Enfin, les roues étaient cinglées de fer.
Dans les rues qui étaient empirées, vous voyez, ça devait faire un boucan.
On se plaint maintenant.
Et il y a peut-être dans notre tour là, de métier du passé autour du verre doré, il y en a un dont on a peu parlé, c'est les danseurs de cuvier. Qui étaient-ils?
Oh ben ça, c'était des ouvriers qui travaillaient dans les teintureries. Alors bon, ici, sur Trécloître même, moi, personnellement, parce qu'il y avait certainement y avait des artisans, vous voyez. Mais à l'époque, c'est difficile parce qu'ils parlaient de marchands. Alors on ne sait pas si c'était des gens qui ne faisaient que de vendre ou qui produisaient en même temps. Mmh. Vous voyez, c'est pas spécifié. Ça se spécialisera plus tard, vous voyez. On fera les distinctions. Mais à l'époque, c'était des marchands.
Alors, et les cuviers, bon. Donc, en fait.
Alors, les danseurs de cuviers, c'était dans les teintureries. Alors, il y en avait une teintureries. Ça, mais c'était la fin 19e. C'était fin 19e, début 20e, vers la place Birakem. Et alors, moi j'ai fait un petit relevé là, sur les danseurs de cuillers. Alors ça, c'était un travail qui est vraiment... Alors c'était un des métiers pratiques pour pratiquer dans les teintureries en peau, et un des plus pénibles, car l'ouvrier foulait les peaux avec ses pieds. C'est pour ça qu'on parle de danseur de cuillers, parce que c'était comme dans le midi, quand on presse le raisin, on foulait le raisin, vous voyez, avant qu'il ait pressoir. C'était un foulage
au pied.
Voilà.
Oui, on voit encore un petit peu.
Et donc, eux, ils faisaient la même chose.
Avec les peaux.
Mais, oui, avec les peaux, mais il n'y avait pas que la peau.
Il y avait tous les produits. Hein.
Donc, vous voyez, dans un banquier, un baquet rempli d'un mélange de jaune d'œuf, de farine et d'eau, et de l'urine humaine pétrifiée servait de mordant pour fixer les couleurs. Donc, je ne vous dis pas, les gens, ils étaient en permanence dans l'eau. Alors, ils avaient des ulcères, ils avaient la peau, la macération de la peau.
L'eau et l'urine, quoi.
Oui, et puis l'hygiène, la santé. Vous voyez, l'urine, ça pouvait transporter des maladies. Et donc, ces ouvriers-là, ils allaient jusqu'à 35-40 ans, pas plus. Après, ils ne pouvaient plus.
Oui, bah oui.
Ils avaient les jambes, les pieds complètement abîmés. On se demandait comment ils pouvaient marcher.
Et tout ça, du coup, c'était des métiers plutôt autour, justement, de cours d'eau, et tout était déversé. Mais
oui. Ça, c'était une spécialité dans les teintureries. Vous voyez, mais ça, c'était avant qu'on fabrique des machines, vous voyez, et puis que la chimie se développe, où l'urine a été... Mais déjà, vers 1900, il y avait des débats. Comme maintenant, pour l'agriculture, vous voyez, pour les pesticides, etc., il y avait des gens qui disaient qu'on pouvait remplacer l'urine par autre chose.
Et des gens qui disaient non.
Et bien, alors, pour moi, ça, c'est tout à côté, mais c'est à la même époque, c'était les peintres en bâtiment. On utilisait le blanc de céruse. C'était le minimum de plomb. Donc le plomb, c'est catastrophique pour la santé. Et bien, à cette époque-là, il y avait déjà des produits de substitution, mais on ne voulait pas les utiliser. On continuait à utiliser le blanc de céruse. Il y a eu des bagarres monumentales ici à Grenoble là-dessus. Enfin, vous voyez.
Vous l'aurez compris, le ver de Ré, du coup, au-delà du charmant ruisseau et de l'eau vive que Guy Béard décrivait plus tôt, c'était aussi une forme de dégoût.
Solitary only, a peculiar, an uncommon, a reunited few. solitary, only but peculiar, uncommon, a ray united few. Je vis dans les égouts, je vis dans les égouts.
Dans l'émission jusqu'à présent, il ne reste dans la Grenoble d'aujourd'hui que d'infimes traces du Verderet. Donc la forme sinueuse de la rue Trécloître, un petit pont en pierre à la rue Saint-Gemme, son déversement au niveau du musée de Grenoble dans l'Isère, et c'est à peu près tout ce qui nous reste de ça aujourd'hui. Son lit a été entièrement enterré sous la ville. Et il est parfois envisagé de le découvrir dans certaines zones, comme au parc Paul Mistral, pour pouvoir profiter de sa présence. Mais à l'inverse, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, on s'en serait parfois bien passé de sa présence. Parce que comme on l'a vu, le Verderet, en plus d'inonder régulièrement le quartier, c'était devenu un égout à ciel ouvert. Donc voici un extrait d'une pétition que les riverains du Verderet faisaient signer place Notre-Dame en septembre 1886 pour réclamer sa couverture.
Pourquoi, cette année encore, on construit 500 mètres d'égout dans les rues les plus propres, les plus saines, en rue Montgorge, Lafayette, de la Halle, Grand-Rue? C'est le comble de l'embellissement et de la propreté. Mais avant de donner aux uns le superflu, il serait bon de donner aux autres l'utile et l'indispensable. Il est plus que juste que l'ancienne ville, qui paye pour les agrandissements et les embellissements, ait au moins l'assainissement dans la répartition des dépenses publiques. Surtout au moment où l'on projette les fêtes du centenaire de l'Assemblée de Vizille, avec une foule d'étrangers conviés. Ne laissons pas dans la malpropreté les dessous de toilettes de Grenoble.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du contexte de l'époque? Pourquoi est-ce que ça semblait si important de le recouvrir? Et pourquoi est-ce que les habitants avaient besoin de faire une pétition pour l'obtenir?
Alors, important parce que effectivement, le Verderet, au-delà même des inondations, il y a eu plusieurs épidémies assez régulièrement tout au long du XIXe siècle de fièvre typhoïde, ce qu'on appelle maintenant fièvre typhoïde, qui à l'époque, ils nommaient fièvre sans plus, quoi. Donc jusqu'à la fin du 19e, on ne connaissait pas l'existence des microbes, tout ça, c'est venu après. Donc les gens ont compris qu'une grande partie de ces fièvres, ça venait justement du Verderet, du fait qu'il y avait aussi des gens qui lavaient leurs vêtements dedans. Enfin, c'était donc sans parler donc aussi des odeurs, tout ça. Et puis surtout, il y avait aussi des enfants qui se noyaient dedans, qui n'étaient pas... Donc, et donc les gens se sentaient, on pourrait dire, déconsidérés du fait que tout ce qui était les quartiers nouveaux de l'époque, justement Place Grenette, Alsace-Lorraine, maintenant, enfin toute cette partie-là, quoi, qui a grandi sous Napoléon III dans les années 1870-80, on y installait tout à l'égout, c'était moderne. Tandis que tout ce qui était Chenois, Faubourg Trécloître, tout ça, on continuait à jeter ces déchets dans le Verderet. Il y avait des procès entre la ville et les propriétaires des berges sur le fait de qui était responsable de ces pollutions, de ces dégâts. Il y a des gens qui se faisaient inonder et puis personne les remboursait. Il n'y avait pas, parce que la ville disait c'est pas nous, c'est le propriétaire privé. Le propriétaire privé disait c'est pas moi, c'est la ville, enfin, etc. quoi.
Est-ce que ces inégalités-là de traitement, est-ce que ça reflète les inégalités sociales de l'époque aussi, avec des quartiers vraiment très marqués socialement?
Pour la rue Trécloître, j'ai pas trouvé de trucs. Par contre, pour la rue Chenoise, le quartier rue Chenoise, depuis, disons, le Second Empire, ou même avant, il y a toujours... Il y avait des libéraux, il y avait des... Vous voyez, il y avait plutôt une tendance plus démocratique, hein, et certainement sur Trécloître aussi. Mais bon, moi, j'ai moins trouvé de sources là-dessus.
Mais est-ce que aussi économiquement, ici, dans ces quartiers-là, habitaient plutôt des classes populaires et très nettement dans la ville nouvelle,
oui,
c'était très...
Vers 1900, avant... Par exemple, la rue du Faubourg, la rue du Vieux-Temple, eh ben, y avait des chaudronniers. avant que la grave, que ces boîtes ont ensuite émigré vers Courberia, vers Beria, vous voyez, la gare. Mais il y avait à l'époque, c'était considéré comme des bouviers, etc. C'était des chaudronniers qui fabriquaient des trucs importants, hein, au point de vue métallique, mécanique, vous voyez. Bon, il y a toujours eu... c'était plutôt ouvrier à l'époque. Vous voyez, fin du 19... là, on avait parlé quelquefois pour la rue Chenoise, il y avait Raymond Bouton.
Les débuts, au début.
Raymond et Gutin, avant d'aller au Courberia, ils étaient au 18 ou 20 de la rue Chenoise. Il y avait des problèmes avec leur machine à vapeur qui faisait des escarbilles et les voisins avaient peur qu'ils mettent le feu.
Donc avant Beria, le quartier un peu ouvrier, c'était
Mais alors, ça, c'est toute la progressive. C'était pareil pour la rue Saint-Jacques. Vous voyez, il y avait Fitt. Vous vous rendez compte ? Qui après est parti là-bas à Beauvert. Hein, vous voyez, tous ces quartiers qui étaient un peu extérieurs, mais ils abritaient déjà à l'époque des gros ateliers artisanaux. Et puis après, à la fin du 19e, début 20e, ils ont émigré un peu plus loin. Oui. Mais c'était ouvrier ici.
Et alors finalement, cette couverture, elle a été résolue, on va dire.
C'était relativement long, parce que ils ont commencé à couvrir justement vers vers 1900, enfin en gros. Hein. Mais donc les derniers tronçons étaient finis d'être recouverts vers 1960-65.
Avec pour conséquence du coup qu'il y ait des artisanats qui se déplacent, des conséquences sur les jardins.
Oui, c'est ça. En fait, c'est les derniers endroits à être bouchés. Ça a été quand par exemple, c'est quand on a construit la cité Tesser ou la cité de l'Abbaye qu'on l'a bouché à ce niveau-là. C'est fait par tranche, on pourrait dire, au fur et à mesure de l'urbanisation, l'urbanisation moderne.
C'est à l'extérieur, oui.
Ça s'est bouché. Et donc, je crois que Trécloître, c'était resté jusque dans les années 50 ou un truc comme... Enfin, il y avait encore... que c'était pas du tout le quartier de maintenant, hein. C'était que des immeubles dans les années 50, 60, 70, c'était que des immeubles anciens qui étaient presque laissés à l'abandon, enfin, il n'y avait pas du tout de politique urbaine par rapport à tout ça, donc c'était des quartiers, des taudis, quoi, on pourrait dire. Hein. Donc, bon.
Oui, il y a eu cette fameuse campagne de presse de 1886, où il y avait la signature des pétitions. Donc, ça a commencé à prendre forme en 1889, vous voyez, où là, le conseil municipal a décidé la couverture. Et donc, on peut dire que la première partie de l'Isère à la station de tram, c'était la rue Frédéric Tolly à l'époque, eh ben, elle a été recouverte en 1890 peut-être, vous voyez, 1890. Et c'était prévu... dans la foulée, de faire ici, jusqu'à la rue Hébert. C'est-à-dire... jusqu'à la rue Lesdiguières, à l'époque, qui est la rue Hébert, maintenant, vous voyez. Mais comme il y avait une opposition des teinturiers et musiciers de la place Malakoff, la place Birakem, ça ne s'était pas fait. Et il a fallu donc la fameuse épidémie de fièvre de 1900, à l'automne 1900, pour que là, le maire passe outre et décide de faire la couverture aux frais de la ville. Ça veut dire qu'auparavant, c'est une vieille politique dans Grenoble, même du temps de Beria. Hein, c'était les propriétaires, en quelque sorte, en commun avec la ville, qui payaient. Voyez, ils étaient mis à contribution. Donc c'est pour ça que la ville cherchait à les attirer, vous voyez. Il leur faisait quelques petites compensations.
Cadeaux,
s'ils participaient financièrement, bon, il leur faisait quelques petites compensations, vous voyez. Mais là, ils n'avaient pas pu le faire. Donc il est arrivé cette épidémie où il y a eu 4 morts et une cinquantaine de personnes qui étaient touchées, pour que là, le maire, il passe outre. Et donc, ici, il a été couvert à partir de 1901, à peu près. C'est pour ça que vous avez eu, dans le petit document que je vous ai fait passer, sur un peintre qui avait un atelier au bout de la rue, où on voit le profil du verderie, parce qu'il passait juste sous sa boutique. voyez. Et il demandait de faire des travaux, de, vous voyez. Et on, là, on voit le profil en travers, vous voyez, la coupe. Hein. Mais ça, ça date de 1908, dans le verre de riz, vous voyez, il avait déjà été couvert à cette époque. Voyez. Mais avant d'arriver à la place Birakem, eh bien, il était resté encore une portion qui n'avait pas été couverte. Ça, c'était un journal des années 1930, qui avait fait paraître la photo. Voyez.
Donc finalement, ça s'est terminé assez récemment. Quoi. Dans les années 50, oui. On était en train
Après le jardin des plantes, après le début de le parc Mistral, la rue Lyon-Jouot, parce qu'il passait un peu à l'écart, il passait près de la fontaine de l'abbaye, la maison des jeunes, l'agriculture de l'abbaye. C'est Abbaye-les-Bains.
Oui, la bibliothèque.
L'abbaye-les-Bains, vous voyez, il passait par là. Et il allait. Ah oui, mais il y a quelque chose à rajouter, si c'est possible. Il descendait des bains, le verre de riz. Mais il ne faut pas oublier que jusqu'en 1800, il y avait des marais. Il y avait le marais de Gières, de Saint-Martin-d'Air, de Poisat, des bains, vous voyez, qui jouxtaient le Beldon. Et ça résultait des inondations fréquentes du Drac et de l'Isère. Vous voyez, ils étaient alimentés régulièrement. Et c'est eux aussi qui alimentaient tous ces ruisseaux qui venaient vers Grenoble. Ouais. Et à partir de 1800, il y a eu une politique d'assèchement des marais, petit à petit. Maintenant, il n'y a plus rien qui existe. Tout est. Mmh. Avant, c'était des maraîchers, c'était des granges hein, qui étaient là.
Alors bon, est-ce que finalement on peut regretter ou pas joli verre de raie ?
Ah, c'est toujours pareil.
Ça dépend, je crois, à quel niveau du verre de riz on avait été, peut-être.
Un verre de riz propre.
Oui.
Ouais. Pas de problème.
Oui,
mais c'est ce qui existe maintenant. Parce que comme il est complètement couvert, vous voyez, il doit être moins... Vous avez vu, dans le postillon, ils avaient fait une visite organisée dans le conduit du verre de riz. Hein. Bon, mais... Ils n'ont pas attrapé de maladie ou quoi. Hein.
Ils sont toujours vivants, a priori.
C'est ça, mais il y a un petit bout vers les ruires, je crois, qui est toujours... Enfin, on le voit disparaître à cet endroit-là, quoi.
Eh bien, l'émission va toucher à sa fin, Claude. Mais si vous avez une dernière anecdote à nous raconter...
On posait la question, quels sont les enjeux du tout à l'égout ? Alors, moi je disais que... Bon, c'est vrai que du côté des habitations, des habitants, passer au tout à l'égout, ça avait un avantage. Il y avait plus à fleur d'eau, avec tous les déchets. Mais on peut se poser la question si ce n'était pas simplement reporter le problème. C'est-à-dire qu'il y avait moins de problèmes au départ, mais à l'arrivée, ces eaux, il fallait qu'elles soient évacuées. Alors, à l'époque, est-ce qu'il existait des stations d'épuration d'eau ? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Vous voyez, donc, c'était versé à l'Isère. Alors, c'était les gens qui étaient en dessous qui ramassaient. Et puis, juste pour terminer, moi, je conseillerais la lecture d'un ouvrage sur tous ces problèmes de ruisseaux, de rivières, d'eau. C'est un ouvrage qui s'appelle « La vie de la rivière ».
Écrit hein, par ?
Qui est édité par Delachaux et Niesley. Alors c'est un bouquin qui coûte assez cher, 39 euros, mais c'est une somme, vous verrez les photos, les dessins, les cartes. Là, quand on lit ce bouquin, quand on se promène le long d'un ruisseau ou d'une rivière, on a un point de vue différent.
Qui traite du coup des rivières de l'Isère, autour de Grenoble.
Surtout moi qui habite à Saint-Martin-d'Air, l'Isère est pareil pour Grenoble. Les berges, là, on comprend la vie de la rivière.
Et la vie de la ville.
Et des gens qui sont autour.
Eh ben merci pour cette référence et ce conseil de lecture. Merci à vous deux pour avoir été présents à cette émission. Merci Marie, merci Rémi pour la technique. Et puis peut-être, avant de se quitter, quand même rappeler que Ouverture Exceptionnelle, ça vient de commencer. C'est la première journée que nos studios radio, évidemment, sont ouverts à tous et à toutes. Que demain, on organise en fin de journée... une grande soirée musicale autour des musiques de la Caraïbe, rien à voir avec le Ver de Ray, très cloître. Et puis vous rappelez quand même, si vous êtes mordu d'histoire, que vous pourrez en écouter et en entendre encore plus avec Claude qui propose deux visites. Donc tes deux visites du quartier se déroulent demain, c'est bien ça? Donc demain à 10h30 et à 17h, et quel est le point de rendez-vous?
C'est le 26. Le cabinet de curiosité.
Le fameux cabinet de curiosité. Donc d'une pierre deux coups, ça vous permet de découvrir le cabinet et de poursuivre sur une visite du quartier. Merci encore, bonne journée et à bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Radio.
Radio.
Du côté de l'Alma, une émission de quartier quotidienne et éphémère.
Sur 90.8 FM.
Ah, encore un figuier. Il y a des figues là ?